Oui, c'est difficile.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Le président de la République avait pourtant annoncé qu'il ferait un bilan des 100 jours. Le cap qu'il avait fixé à Madame Borne pour tenter de sortir, souvenez-vous, de la crise engendrée par la réforme des retraites. Alors, Macron se défile, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure à Clément Beaune. On se demande pourquoi il essaie de ne pas parler. Alors, il nous dit, oui, mais je parlerai dans plusieurs jours, dans quelques jours, on verra. Allez, on l'écoute.
D'abord, j'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Je crois avoir fait deux fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez avoir une certaine liberté avec cette pratique.
Vous aviez évoqué le 14 juillet.
Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu.
Alors, certains peuvent penser qu'il n'a peut-être pas grand-chose à dire sur les émeutes, en tout cas des réponses concrètes à apporter aux émeutes. Peut-être aussi d'attendre voir si ça va bien se passer là jusqu'à dimanche. Et donc, il se donne du temps. Peut-être aussi parce qu'il y a un remaniement à préparer qui n'est toujours pas là. Bref, est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron ne parle pas alors qu'il avait dit, hein, quand même, qu'il parlerait demain, les habitants.
Bah, il a répondu, il n'a pas dit qu'il ne parlerait pas, il n'a pas dit quand.
Si, il avait dit 14 juillet.
Oui, mais là, dans la réponse qu'il fait.
Je joue avec les mots, mais il l'avait
voilà,
dit 14
mais
juillet.
Là, dans la réponse qu'il fait, il dit voilà, j'ai pas dit que je parlerai pas, j'ai juste pas dit quand.
D'accord.
Donc, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut parler immédiatement le lendemain à chaud? Est-ce qu'il faut préparer ce qu'il y a à dire? J'en sais rien, en fait. J'espère qu'il va pouvoir parler de pas mal de choses. Et j'espère qu'il va pouvoir parler, en tout cas, à la fois des émeutes dans ce qui s'est passé, mais à la fois des solutions aussi, à la fois de ce qu'il pourrait proposer, à la fois sur le plan prévention et répression, mais pas que répression et prévention. Je ne sais pas ce qu'il prévoit justement pour ces questions qui traversent une partie de la jeunesse et des quartiers, même si il y a à dire et que il faut marcher sur ses deux jambes. Je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. On parle d'un remaniement.
C'est quelque chose que tu es impatient.
Non, enfin, personnellement, moi j'aimerais qu'il y ait un remaniement avec du lourd. Avec des gens.
C'est quoi du lourd?
Bah, c'est avec des gens qui maîtrisent parfaitement leur dossier, qui sont capables d'être force de proposition, qui sont capables de poser sur la table des solutions. Là, c'est un peu tiède, quoi. Enfin, je trouve. Hein.
Bruno Pomard.
Je vais vous faire un scoop. D'ailleurs, je suis
dans les petits papiers.
Je vous dis ça. Non, mais parce que je regarde, mais vous le faites aussi mieux que moi, bien mieux que moi, monsieur Olivier Truchot, c'est regardez ce qui se prépare. Il y a des dossiers, quartier 2030, tu parlais de ce qu'il faut faire sur la prévention, etc. Il y a un gros chantier qui est en cours. Je dis ça parce que je suis un tout petit peu concerné par rapport avec mon association, où on m'a demandé des notes, etc., mais pour pouvoir avancer sur ces sujets-là, qui sont la prévention de la
Donc en fait, il ne parle pas parce qu'il prépare, il va faire un plan banlieue?
Je pense que oui.
Un plan banlieue?
Mais quartier 2030, mais il a déjà dit, hein, quand je dis scoop, c'est pour faire.
Donc,
voilà.
Déjà
et je pense que tout n'est pas oui, encore. Il y a des ministres qui travaillent là-dessus, Olivier Klein, entre autres, et d'autres, qui sont. Donc, je pense qu'il ne doit pas avoir les dossiers complets.
Il
n'y
a pas encore
finis.
Tous les biscuits.
Il ne va pas balancer des trucs s'il n'y a rien à dire. Alors, je comprends que les journalistes sont pressés d'avoir des infos.
C'est lui, hein. Pardon, excuse-moi, c'est lui qui parlerait. Hein.
J'entends bien, mais je pense qu'il y a tout un tas.
Ça n'empêchera pas les Français de dormir et de passer un bon week-end.
Tu as raison.
Ne parle pas demain.
Mais en même temps, ça se percute avec comment va se passer le 14 juillet, le remaniement. Il y a tout un tas de choses. Ça fait
mal. Après, est-ce que les Français sont encore friands d'annonces? Moi, je rejoins un peu ce que dit Bruno, c'est-à-dire que soit il monte au créneau, il annonce des c'est trucs ça. Qui ne sont pas franchement bouclés, etc. Ou soit il ne dit rien parce que les Français, en fait, sont ambigus. Est-ce si tu annonces...
Mais les Français ne sont pas lassés d'annonces.
C'est pour ça. Est-ce que
il
justement...
Il doit attendre d'avoir des trucs bien factuels, des trucs bien...
Moi, je crois qu'on vit une période compliquée. Si on additionne depuis le départ de Macron, il y a eu quatre crises importantes.
Depuis l'arrivée, tu veux dire.
Depuis l'arrivée, oui. Il y a eu, je pense que depuis l'affaire des Gilets jaunes, je pense qu'il y a un sentiment d'une certaine vulnérabilité de l'État face à une montée populaire. Je pense que c'est quelque chose que nous n'avions pas vécu depuis mai 68, très exactement. Ça n'a pas du tout été vécu de la même manière en 2005. Je pense que les Gilets jaunes ont montré pratiquement qu'on pouvait renverser un État. C'est-à-dire qu'on pouvait passer au-dessus de tout ce qui était mis en place.
Donc le président
cadre.
A peur.
Et je crois ensuite il y a eu le Covid qui aussi a apporté une forme de fragilité de l'État face à un État d'urgence. Il y a eu la réforme des retraites qui a montré quand même qu'il y avait une union sacrée dans le, dans une union sacrée entre guillemets au sein de la population qui réunissait droite et gauche pour le coup,
dans la
qui était opposée aux réformes. Et là, il y a eu les émeutes qui continuent dans le même cycle. Et je pense que nous sommes rentrés, mais pas que nous d'ailleurs, c'est vrai ailleurs aussi, mais nous sommes rentrés dans un siècle du 21e siècle de fragilité des États. Et les États, c'est plus parce que on est élu, c'est plus parce que on a l'armée et la police et qu'on est le premier, le chef des armées, le chef de la police, qu'on devient absolument irrenversable. Je pense, par exemple, ce qui s'est passé là avec Poutine, qui était une sorte de modèle incroyable de virilité avec l'armée la plus puissante du monde, etc., etc., qu'on a vu que ce type s'allongeait devant son cuisinier. Et qui devenait, oui, qu'il vrai, était non, totalement vrai, ridicule. C'est-à-dire que on est rentré dans une nouvelle époque, dans une nouvelle ère politique, dans lesquelles il y a une forme de fragilité. D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis aussi avec le Capitole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que les politiques peuvent avoir à nouveau peur des peuples.
Oui, le peuple se rebelle plus.
Se rebelle plus, et avec beaucoup plus de violence, et avec beaucoup moins d'obéissance aux règles. Du temps des syndicats, on obéissait. Quand on disait, vous ne défilerez pas sur les Champs-Élysées, vous défilerez entre Bastille et République, les syndicats défilaient. Ça n'était jamais arrivé qu'on transgresse cette loi et qu'on se retrouve sur les champs. Je trouve que on a passé un virage important, et nous ne sommes pas les seuls. Dans d'autres pays, il se passe la même chose, y compris en Russie, et là, je pense que nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'autre chose que d'un discours. Nous avons vraiment besoin de nous montrer que l'État est fort en soi et qui prend en compte les revendications populaires.
Oui. Bah, déjà dans les émeutes, est-ce qu'il y a vraiment eu des revendications populaires? Aucune.
Mais on a montré une certaine fragilité aussi.
Une
stabilité qui s'effondrait.
Après que le pouvoir soit fragile, moi je pense qu'au contraire, c'est que l'État aujourd'hui, il laisse penser encore à tout le monde qu'il est capable de tout régler. Il est omniprésent, mais finalement il est omnidéficient.
C'est ça la fragilité.
On nous explique que l'hôpital ça va pas, les policiers se plaignent. Donc en fait, les Français constatent que cet État qu'on nous vend comme étant capable de régler tous nos problèmes, de nous chouchouter, de nous border, de nous amener de la naissance à la mort, et etc. En fait, on se rend compte que c'est pas vrai.
Attends, Olivier, il y a aussi une crise.
Et donc, Emmanuel Macron, qui en plus s'est fait élire sur la promesse quand même qu'il allait un peu renverser la table, il ne l'a pas renversé. Ensuite, c'était le pouvoir vertical. On voit bien que le pouvoir vertical, ça n'empêche pas les crises, parce qu'on va de crise en crise. En fait, il est peut-être paumé.
Mais Olivier,
la question, est-ce qu'on n'a pas un chef de l'État paumé?
Ouais, mais il y a aussi un élément dont on ne parle pas, c'est aussi une crise de l'exercice de sa citoyenneté. C'est-à-dire que l'État, qui justement se veut omniprésent mais qui est déficient, est-ce que quelque part le peuple aussi, il n'y a pas une crise de la citoyenneté? On parlait tout à l'heure du patriotisme, mais dont découle un certain nombre de choses.
Les gens ne votent moins.
Voilà, votent moins. Et puis se sentent moins concernés dans ce qu'ils peuvent apporter à leur pays. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, tous les jours, habitués à se dire « qu'est-ce que l'État peut faire pour moi ?» Et là, on voit bien que dans les émeutes qu'il y a eu, il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés individuellement et qui ont essayé, eux, d'apporter des solutions. On voit bien que l'exercice de sa citoyenneté, l'exercice actif de sa citoyenneté en proximité dans sa ville, dans son quartier, dans son village et ailleurs, elle peut aussi produire des effets qui viennent renforcer ce que peut faire l'État. Mais on peut plus attendre de l'État là-haut qu'il soit porteur de toutes les solutions et qu'il soit porteur de tout. C'est pas une baguette magique. C'est l'État, c'est un peuple, des gens qui nous gouvernent.
Il faut que ceux qui sont à la tête de l'État arrêtent de faire croire qu'ils vont
aussi
tout régler.
Bien sûr. Je pense qu'ils gagneraient plus à dire.
Un peu de modestie.
Et faites avec moi. C'est-à-dire qu'on va faire ensemble.
Un peu d'humilité.
Remobiliser les gens et dire ensemble, on peut faire des choses aussi.
Mathieu est avec nous au 32-16 et Mathieu, lui, pense que Emmanuel Macron ne parle pas pour apaiser la situation. et c'est peut-être aussi une explication. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gégé.
Oui. Bonjour.
Salut.
Vous pensez que finalement, une parole présidentielle mal calibrée, une petite phrase, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, parfois, il sort des petites phrases qui peuvent mettre le feu. C'est pour ça qu'il ne parle pas?
Ouais, je pense que il y a de ça parce que. Comme vous dites, hein, il est très maladroit. Il va dire une phrase où il va soutenir la police. Les émeutiers vont remettre de bon cœur. Il va dire une parole pour soutenir, on va dire les jeunes de ce qui s'est passé. Ben, il va se faire lâcher par la police. Moi, je pense qu'il attend. Il va attendre de voir aussi les événements qui va se passer le 13 et le 14 juillet.
Ouais.
Il va voir tout ça.
C'est
et
ça.
Après, il va faire.
Moi, je pense que c'est surtout ça.
Et nouveau discours de politique, parce que de toute façon, il sait que de toute façon, la plupart des Français, n'est pas d'accord avec lui, avec sa politique. Donc là, il est au fond du trou. Donc, je pense que
si on prend la suite des présidents de la République depuis De Gaulle, et en tout cas, si on prend la suite des présidents de la République, à peu près au même moment de leur exercice, ils sont tous descendus très très bas. Hein. Oui. Il n'est pas d'ailleurs le plus bas. Il est au-dessus de Sarkozy. Il est au-dessus. Donc en fait, il n'est pas. Il et sa base, en quelque sorte, qui a voté pour lui, vraiment, qui revotera éventuellement. Bon, il se présente pas, mais qui revotera pour le même genre de bonhomme ou de bonne femme qui est toujours présente et n'a pas bougé, ne s'est pas désolidarisé. Et donc en fait, rien n'est joué sur le plan purement statistique.
Après, je pense que le contexte des années, on va dire de maintenant, on va dire par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans où les gens râlaient mais étaient peut-être moins dans la violence, on va dire c'était peut-être
c'est la
dire,
différence oui.
C'était la différence maintenant.
Oui, je pense qu'on transgresse les règles.
C'est ça, on y va de toute façon dans tous les jours, que ça soit dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est si on n'a pas ce qu'on veut, c'est soit on a de la violence, soit on est procédurier. Et la discussion les entendements à l'amiable, ça n'existe plus maintenant. C'est fini. Et je pense que de ce qu'il va dire, s'il dit quelque chose de mal, ça va mal. On va dire dans un sens ou dans l'autre, ça se finira mal. Et il veut pas relancer les émeutes parce qu'il sait très bien que ça a créé beaucoup de problèmes financiers pour beaucoup de personnes.
Mais est-ce qu'on peut alors, donc la question c'est est-ce qu'aujourd'hui des États-Unis à l'Europe, on peut encore diriger un pays sur un modèle démocratique tel que nous le connaissons, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore diriger un pays? C'est-à-dire est-ce que automatiquement à la fois les oppositions d'un côté de l'autre nous poussent? Ce matin je lisais que
peut-être qu'il faut le diriger autrement. Pardon, mais
oui. Oui, peut-être.
Mais les technos, c'est eux qui dirigent.
On est quand même le seul pays en Europe où la majorité c'est un seul bloc, c'est-à-dire que c'est un seul parti. Partout ailleurs ce sont des coalitions. Alors après ça marche pas toujours, mais ce sont des coalitions.
Sixième République.
Des coalitions, ça va carrément de la droite aux écolos.
Ouais, ça tient pas.
Voilà. Alors, ça tient pas toujours non plus, mais il y a peut-être aussi une façon d'exercer le pouvoir. Et puis,
je suis d'accord.
Revenons aussi à ce qui s'est passé il y a un an et demi, la réélection d'Emmanuel Macron. Quand même, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas vraiment une campagne présidentielle, qu'il n'a peut-être pas été réélu pour les bonnes raisons, que face à Marine Le Pen, finalement, le match était joué d'avance. Il y a tout ça qui fait que... Et puis aussi le fait que lui-même n'a pas défini vraiment un projet, à part la réforme des retraites. Emmanuel Macron ne nous a pas dit précisément où est-ce qu'il voulait
nous emmener. Oui, mais Olivier, quel est le champ ?
Peut-être que lui-même ne le sait pas, d'ailleurs.
Honnêtement, aujourd'hui, si on est très objectif par rapport à ce président comme un autre, quel est le champ d'action réel ? Quel est le champ d'action réel ? Ce matin, on lisait que l'Italie, Madame Meloni, qui s'est fait élire quand même, s'appelant elle-même néo-fasciste, etc., sur la question de l'immigration, on lisait ce matin qu'ils augmentent l'immigration légale parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Oui. Il leur fallait 900 000. Il leur faut 900 000 travailleurs.
Le pouvoir le ferait sans doute.
Mais il leur faut 900 000. Donc on voit bien qu'en fait, il y a d'une part l'idéologie qu'on peut défendre pour se faire élire, et puis après, il y a le pragmatisme.
Alors, on remercie Mathieu d'avoir appelé au 32-16. Et donc, le président Macron va parler. Il y aura sans doute, de toute façon, la semaine prochaine un remaniement. Et il parlera sans doute après pour dire ce qu'il compte faire pour les mois qui viennent.